cette même antenne, ce n'est qu'un combat, continuant le début. Salut.
Radio G. www.radio-g.fr. Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr.
Vos synapses, poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Bonjour et bienvenue au Labo des Savoirs. La première référence de musicothérapie remonte au texte biblique. David, jeune berger et accessoirement futur messie, prenait une harpe pour soulager et calmer Saoul, alors roi d'Israël et de Juda, chaque fois que l'esprit malin envoyé du Seigneur se saisissait du roi. Quelques notes de musique pour soigner la dépression. Certaines vertus de la musicothérapie paraissent évidentes, de l'écoute de la musique après une journée de boulot à la veilleuse de bébé pour l'endormir. Pourtant, scientifiquement, elles peinent encore à être prouvées. Les chercheurs sont sommés de pratiquer des sciences humaines plus que de la médecine parce que nombre d'études s'en tiennent aujourd'hui à des résultats comportementaux. Celles-ci prouvent néanmoins, et nous le verrons aujourd'hui, qu'une certaine pratique des sons peut avoir des effets physiologiques, prévenir des troubles, calmer des maux et même avoir un impact sur la mémoire. Pour répondre à ces questions et à ces problématiques, deux chercheurs ont accepté notre invitation. Olivier Bonneau, professeur en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CHU de Nantes et à l'Université de Nantes, et aussi responsable pédagogique du diplôme de musicothérapie à l'Université de Nantes. Bonjour.
Bonjour.
Et par téléphone, Hervé Platel, professeur en neuropsychologie. Vous vous focalisez sur la mémoire humaine et la musique à l'Université de Caen. Bonjour.
Tout à fait, bonjour.
Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
Soins, relations d'aide, accompagnement, soutien, rééducation, voici les différentes utilisations de la musique dans le monde médical. Des termes froids qui contrastent avec le caractère intime du chant, car la musique, c'est d'abord une relation à l'autre. Les scientifiques peinent à dater les premières formes de musique. Le plus vieil instrument aurait 42 000 ans. Il s'agirait d'une flûte. Mais comme on le sait, l'homme peut pratiquer un rythme, une mélodie, avec son propre corps. Impossible alors de retracer les premiers usages des sons et les raisons pour lesquelles l'homo en vient à la musique. Aujourd'hui, Olivier Bonneau, Hervé Platel, quel rôle joue la musique chez l'être humain ?
C'est un rôle qui est tout à fait prépondérant. On sait qu'au niveau de l'ensemble des médias artistiques, la musique, c'est ce qui est le plus consommé comme support média au monde. Alors si la musique est le média artistique le plus consommé, c'est qu'on se dit bah, peut-être qu'il va y avoir une raison à cela, et cette raison elle est multiple, c'est qu'elle a sans doute un intérêt à la fois individuel, mais aussi social. C'est clair que la musique dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures humaines, et ça c'est un point qui est intéressant à souligner, c'est que pour le moment, en tout cas, on n'a trouvé aucun exemple de culture, de société humaine où il n'y aurait pas de pratique musicale, que ce soit par le chant ou pratique instrumentale. Vous évoquiez tout à l'heure les traces préhistoriques donc de la musique, et c'est vrai. Est-ce que l'homme a chanté donc avant de parler ? Est-ce qu'il a parlé avant de chanter ? Bon, il y a des débats autour de cela. On peut penser sans doute d'ailleurs à l'image de Darwin. Darwin avait mis cette hypothèse en avant, que avant le langage, il y aurait eu une sorte de proto-langage plutôt musical, et on peut se le représenter un petit peu par les vocalisations notamment que réalisent les grands singes, les grands primates, donc entre eux, puisque une maman chimpanzé, une maman orang-outan, elle va aussi avoir des vocalisations particulières, donc des vocalisations sociales, et notamment lorsqu'elle s'adresse à son petit, elle n'a pas du tout les mêmes vocalisations que lorsqu'elle est en colère vis-à-vis d'un congénère. Donc sans doute qu'on est dans une, comme on dit, une phylogénèse, une histoire de l'espèce, de notre espèce humaine, mais aussi sans doute doute des espèces avec cette utilisation d'une communication émotionnelle.
Les animaux, alors, ont un rapport particulier à la musique ?
Alors, c'est difficile de le dire. En tout cas, mais ce qui a beaucoup été étudié, ce sont les oiseaux chanteurs en particulier, les répertoires des oiseaux chanteurs. Alors, il y a des choses assez amusantes à ce sujet-là. Notamment, on voit que en captivité, dans les laboratoires de recherche, certains oiseaux qui sont dans leur petite pièce un peu confinée, en entendant le chant d'autres espèces d'oiseaux qui sont dans d'autres pièces proches d'eux mais qu'ils ne voient pas, essayent éventuellement de les imiter. Donc il peut y avoir en fin de compte des apprentissages inattendus et des imitations et une forme de communication qui peut s'établir. Alors après, est-ce qu'on est dans on n'est pas dans la culture, est-ce qu'on est dans l'esthétisme, c'est un peu difficile d'aller jusque-là, mais en tout cas, de plus en plus d'éthologistes, les éthologistes ce sont les chercheurs qui s'intéressent au comportement animal, vont jusqu'à parler effectivement de cultures animales et de pratiques qui tendent à être des pratiques qui n'ont pas de raison d'être en termes de survie. Et qui vont vers les pratiques artistiques.
D'accord, vous parlez notamment des oiseaux. Est-ce qu'il y a une appréhension particulière par les perroquets, ces petits animaux qui parlent ? Est-ce qu'ils ont le sens du rythme ?
Ils ont le sens du rythme, et ça c'est déjà un point qui est intéressant pour faire le lien avec ce que l'on va dire plus tard, de l'importance de l'effet de la musique sur notre corps et sur notre cerveau. Il se passe quelque chose dans le cerveau de ces perroquets, de ces oiseaux qui parlent, qui est du même ordre que dans nos cerveaux, c'est-à-dire que quand ils entendent une musique rythmée, un rythme dansant, on voit que ces oiseaux se mettent à danser, ils synchronisent, ils se balancent sur le rythme. Et en fait, leur mode de synchronisation est tout à fait identique à ce qu'on peut observer chez le bébé humain ou chez le petit enfant qui a tendance naturellement à se synchroniser sur une musique très rythmée. Il y a entre nos régions auditives dans notre cerveau et les régions motrices une connectivité, une forme de boucle auditivo-motrice, comme on dit, et qui fait que quand on entend de la musique un peu rythmée, ça nous donne envie de danser. Et si la musique nous donne envie de danser, c'est intéressant, ça nous motive d'un point de vue individuel, mais on voit bien que tout de suite, ça va nous relier aussi aux autres et à la synchronisation sociale.
Justement, comment la musique rassemble ?
Elle rassemble par le partage. C'est sans doute un des rares arts, la musique, où on peut faire l'expérience de quelque chose qui est quand même pas habituel dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'en tant qu'humain, on se pose tous la question, est-ce que ce que ressent l'autre est la même chose que ce que je ressens moi-même ? Mais malheureusement, on ne peut pas être dans la tête des autres. Et en fait, quand on partage cette expérience de l'écoute de la musique, dans un concert en particulier, on s'approche de cette possibilité de synchronisation sociale et surtout, en fin de compte, d'avoir la possibilité de sentir que l'autre et moi-même faisons la même expérience, que nous ressentons des choses de manière commune.
Olivier Bonneau, vous travaillez notamment sur les autistes. J'imagine que la fonction sociale et la musique, c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement ?
Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'en écoutant Hervé Platel, je pensais aux tout petits enfants, ce qu'il a évoqué. On sait bien qu'il y a deux choses par rapport à la musique. Il y a un premier élément qui est que la musique, les chansons, les comptines sont un élément très important et très attractif pour l'enfant, et y compris d'ailleurs le bébé, très rapidement. Et on sait bien aussi que la prosodie, c'est-à-dire au fond le chant du langage, c'est-à-dire la musique du langage, est probablement quelque chose qui permet le développement du langage. Or, nous, ça nous intéresse particulièrement la question du développement du langage, parce que, au fond, le langage, c'est la manière dont on va se mettre à penser. On a coutume de dire que si on ne rencontre pas quelqu'un qui parle, on ne va pas se mettre à parler. Et si on ne rencontre pas quelqu'un qui pense, on ne va pas se mettre à penser. Et il est assez difficile de parler sans langage, étant exclu, évidemment, le problème des gens qui sont muets, pour lesquels c'est un autre problème. Et donc, c'est un élément très important, ces éléments musicaux. Et particulièrement, évidemment, dans la question de l'autisme, qui est la pathologie de la relation à l'autre, où effectivement, il y a un trouble de la capacité à raisonner exactement ce que racontait Hervé Platel, c'est-à-dire au fond sentir les choses, une sorte de lien social, on appelle ça même maintenant compétences sociales, qui sont extrêmement perturbées, extrêmement précocement chez les enfants autistes, dont on sait qu'ils ont une réactivité à cette prosodie du langage qui est différente de celle de l'adulte, du sujet sain, pardon, et que effectivement, de fait, ils vont avoir de grandes difficultés à développer une qualité de langage suffisante. Parfois, leur langage est de bonne qualité, comme ça quand on l'écoute, mais en fait, de toute façon, ils auront un certain nombre de difficultés sur le plan qualitatif.
Y a-t-il des personnes qui sont réticentes à la musique ? J'entends par là des personnes à musique.
Oui, alors ça existe, effectivement, et ça a été la découverte de ce phénomène depuis, en fait, la fin des années 90, début des années 2000, a laissé un peu perplexe sur le caractère universel, que l'on pensait universel de la perception musicale chez l'homme. En fait, il y a, on va dire, entre 3 à 5 % de la population générale pour qui l'écoute de la musique ne va pas de soi. Alors, les raisons de cela sont sans doute multiples. On pense souvent que peut-être qu'il y a eu une sous-exposition donc à la musique dans l'enfance, ce qui peut être le cas, mais en fait on a aussi différents exemples de personnes qui n'ont pas du tout eu de maladie cérébrale, qui n'ont pas d'anomalie particulière et pourtant pour lesquelles la musique en fin de compte n'est pas entendue, mémorisée comme on peut l'entendre pour tout à chacun. Mais ça va très très loin puisque quand on parle d'amusie, alors c'est assez un terme barbare, hein, l'étiquette que l'on donne à ces personnes, on parle d'amusie congénitale, eh bien en fait quand ces personnes entendent de la musique, eh bien elles n'arrivent pas à faire la différence entre deux mélodies, le décodage de la hauteur des mélodies est très compliqué, à tel point que certaines personnes, donc notamment puisque on peut trouver des gens à musique qui ont maintenant plus de 60 ans et au-delà, disent par exemple la Marseillaise, je ne la reconnais pas, mais je sais qu'on joue la Marseillaise dans les événements publics parce que je vois des gens qui se lèvent. Donc vous voyez des personnes qui sont même dans l'incapacité de reconnaître, de décoder des mélodies qui pour nous sont aussi familières que cela.
Faut-il être éduqué pour réagir à la musique ?
Eh bien, de plus en plus, on comprend que sans doute, c'est un jeu comme tout, je dirais comme toute compétence, c'est un jeu assez complexe entre le fait qu'on ait une biologie qui le permette et après que dans l'environnement, les choses se mettent en place pour que ce talent, ce mécanisme existe. Et de fait, des travaux récents, là aussi ont remis en cause une idée un peu familière qui était que non seulement la musique était universelle, alors ça on vient d'en parler, c'est pas si clair que ça du point de vue de la perception, mais aussi que en fait l'émotion musicale, le frisson musical, c'était aussi quelque chose d'assez universel et qu'il n'y avait pas besoin d'être éduqué à décoder en fin de compte l'émotion musicale pour la ressentir. Et en fait, il y a des chercheurs au Canada, notamment l'équipe de Robert Zatoré à Montréal, qui ont bien montré que dans la population générale, là aussi, il y avait des différences. Il y avait une grande hétérogénéité. Il y a des personnes qui vont être très sensibles à la musique d'un point de vue émotionnel. Tout de suite, ça va les engager d'un point de vue corporel et ils vont tout de suite ressentir le frisson, etc. Et puis, il y a des personnes pour lesquelles, la musique, ils comprennent bien qu'une musique puisse être joyeuse, qu'une musique puisse être triste et ils font parfaitement la différence quand on leur demande de classer les musiques, mais pourtant ils ne ressentent que peu d'émotions musicales et on voit dans leur cerveau, grâce à la neuroimagerie, qu'en définitive, ces personnes qui ressentent peu l'émotion musicale n'ont pas d'activité ou très peu d'activité dans les régions du circuit qu'on appelle circuit de la récompense ou circuit du plaisir.
La musicothérapie permet à l'enfant de se réguler, de trouver des ressources pour se stabiliser sur le plan physiologique. Donc on voit des effets sur la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la saturation en oxygène, donc qui sont ces constantes physiologiques. Et puis on voit aussi que la musique sollicite du mouvement chez cet enfant, une ouverture à place au monde, à la relation progressive avec son entourage, avec ses parents, et puis un mouvement qui peut avoir un impact favorable sur son développement neurocérébral, puisque des recherches notamment en Suisse qui essaient d'évaluer l'impact de la musicothérapie sur le développement cérébral, cela en prévention de tous les troubles cognitifs qui peuvent survenir, des troubles dans l'acquisition du langage qui peuvent survenir chez ces enfants qui sont nés très tôt, qui ont été très stimulés sur le plan médical, qui ont vraiment un début dans la vie très particulier, et on présuppose que la musicothérapie peut intervenir en prévention de ces troubles, puisqu'au niveau de la vie de ces enfants, la technicité fait que ces enfants vivent, sont pris en charge de plus en plus précoce, et voilà, mais les côtés plus négatifs, ce sont ces troubles qui peuvent survenir, et donc c'est là où la musicothérapie est vraiment intéressante.
C'est bien.
Ce qui est recommandé dans les études, c'est l'utilisation d'une musique live, d'une musique vivante, d'une musique contingente, c'est-à-dire adaptée dans l'espace-temps aux réactions de l'enfant. J'utilise beaucoup, à titre personnel, la voix chantée, la voix parlée, la voix prosodiée, parfois sans parole, donc avec ce qu'on appelle les humming, une voix fredonnée. J'utilise aussi un petit instrument qui s'appelle la senza, qui permet un accompagnement mélodique, un accompagnement rythmique et harmonique qui soutient la berceuse, la comptine. Et puis, je sollicite aussi beaucoup le chant des parents, dans la mesure où ils se sentent émotionnellement en capacité d'offrir ce chant à leur enfant. Et puis, la présence du musicothérapeute vient soutenir le parent dans ce chant adressé, qui effectivement, dans ce contexte très, très fragile de la réanimation néonatale, peut être émotionnellement difficile. Mais peu à peu, les parents libèrent leur voix. La présence du musicothérapeute autorise aussi les parents, dans ce contexte très médicalisé, à chanter, puisque la plupart des mères ou des pères ont envie de chanter à leur enfant. La plupart le font de façon naturelle, mais le contexte de l'hospitalisation rend les choses un petit peu compliquées. Donc voilà, il y a vraiment un partenariat qui se crée avec les parents, un partenariat contenant une alliance thérapeutique qui réassure les parents, qui réassure les enfants.
Stéphanie Lefebvre est musicothérapeute dans l'hôpital de Creil dans l'Oise. Elle travaille avec des bébés nés prématurément et était venue à Nantes pour les journées de la musicothérapie le 18 et 19 mars dernier. Hervé Platel, comment explique-t-on les effets physiologiques de la musique ?
Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, depuis quelques années, on a des études qui s'intéressent aux marqueurs physiologiques, donc des effets de la musique, et au-delà même du problème de la culture. C'est vrai que la musique, pour nous, on en a un rapport qui est lié à un rapport lié à l'éducation, à la culture, mais de plus en plus de modèles animaux sont utilisés pour montrer que la synchronisation donc avec un stimulus musical peut être observée chez des animaux. On a parlé tout à l'heure des oiseaux, notamment perroquets, etc., qui synchronisent sur la musique, et en fait il y a beaucoup d'études aussi sur des modèles souris, rats, etc., qui montrent que la stimulation musicale dans l'environnement peut être un enrichissement. Et là, si on revient sur l'exemple des bébés, notamment prématurés, et puis la diminution donc du rythme cardiaque, eh bien, en fait, c'est la même chose que l'on peut observer, cette synchronisation. Lorsqu'on fait écouter une musique qui est de plus en plus lente, avec un tempo de plus en plus ralenti, eh bien, il y a une très jolie étude qui avait montré qu'en prenant des souches de rats qui étaient hypertendues, des animaux qui ont une pathologie, en fin de compte, d'hypertension, eh bien, en leur faisant écouter une musique qui se ralentissait, il y avait une forme de synchronisation physiologique qui faisait que leur tension artérielle baissait de manière très significative, et en même temps que la musique. Donc et c'est quelque chose, là, en dehors de la culture, qui peut être utilisé, et on peut vraiment dire que la musique a un effet physiologique de ce point de vue-là.
La musique active la chimie de notre cerveau, les lobes frontaux notamment. Comment vous pouvez l'expliquer ?
On l'explique de multiples manières, c'est-à-dire que la musique dans notre cerveau a de multiples voies d'entrée. Alors, il y a l'entrée auditive qui se connecte à la fois, je dirais, par des voies sous-corticales du cerveau, par l'intérieur du cerveau, qui sont des voies assez rapides, mais aussi par des voies corticales, donc par des voies plutôt externes, et qui vont, on va dire, investir l'ensemble donc du cerveau dans des régions multimodales. c'est-à-dire de l'audition vers la motricité, des régions effectivement perceptives vers les régions de traitement de la mémoire, notamment les régions hippocampiques à l'intérieur de notre cerveau, les hippocampes à l'intérieur de notre cerveau qui sont des régions très très importantes pour l'encodage et la récupération en mémoire, mais aussi les régions du circuit dont on parlait tout à l'heure, circuit du plaisir, circuit de la récompense, qui est un circuit à la fois sous-cortical et frontal. Et donc on a peut-être abusivement parlé de symphonie neuronale à l'écoute de la musique, mais en fait c'est presque pas abusif, puisqu'on voit bien que la simple écoute de la musique sollicite de manière très très large le cerveau.
Quelque chose à rajouter, Olivier Bonneau ?
Non, peut-être simplement dire effectivement que l'intégration multimodale, c'est-à-dire au fond intégrer ce qu'on ressent physiquement avec ce qu'on entend, avec ce que l'on voit, est un des enjeux du développement très précoce, et qu'on voit bien que la musique y participe beaucoup. Et donc c'est vraiment important, parce que sur le langage, sur ce phénomène d'intégration multimodale, la musique joue un rôle vraiment prépondérant, et c'est à mon avis aussi une des explications de son côté un peu universel pour le sujet, y compris le sujet adulte ensuite.
Parlons un peu des émotions. Quel rôle jouent les sons sur les émotions ?
C'est complexe, parce que en fait il faut sortir aussi sans doute d'un cliché qui est que l'émotion musicale serait portée uniquement par une seule qualité de la musique. En fait, on peut avoir un frisson musical, expérimenter donc un plaisir musical en étant attentif à différents aspects de la musique. Le frisson musical, ça peut être déclenché par le fait qu'on est au concert, que la musique est très forte, que cette vibration de l'air qui nous prend au niveau corporel et au niveau cérébral, eh bien, c'est une expérience sensorielle intense, et l'intensité de cette expérience sensorielle, hein, c'est un peu comme si on se lançait du haut d'une falaise, eh bien, on ressent des choses, hein, c'est l'effet grand 8, eh bien là, on a une expérience sensorielle qui peut être source effectivement de sensations, de plaisir ou d'excitation. Mais évidemment, le frisson musical, c'est aussi utiliser la mémoire pour dire, ah ben ça, cette musique, je l'aime bien, je la connais, je la connais depuis l'enfance, et puis je sais comment elle évolue et j'adore la réécouter. Mais ça peut être aussi quelque chose de plus sophistiqué qui a trait à l'analyse esthétique de la musique, c'est-à-dire je suis un amateur de jazz, et quand j'entends le solo en fin de compte de cet interprète, comme on dit, je prends mon pied parce que c'est tellement bien fait. Et donc on voit bien qu'on se situe à des niveaux extrêmement différents, mais le plaisir peut être là.
Donc la musique qui nous rend joyeux ou triste, en fait c'est culturel.
C'est beaucoup culturel, parce que en définitive, c'est vrai qu'il n'y a pas une universalité du langage musical pour transmettre les émotions. Alors, il y a des aspects très très importants, hein, l'aspect rythmique notamment, qui renvoie beaucoup plus souvent au caractère joyeux quand la musique est sautillante, dans la plupart des cultures. Mais ce qu'il faut aussi s'enlever de l'esprit, c'est que c'est pas parce qu'une musique est, par exemple, mélancolique, plutôt triste, qu'elle nous provoque pas du plaisir. Et il y a quelques travaux qui ont bien montré, notamment couplé avec des techniques de neuroimagerie cérébrale, qu'en définitive, on a, suivant les moments, suivant notre humeur, les moments de la journée, ce qu'on a envie de ressentir, on peut écouter de la musique plutôt mélancolique ou triste pour prendre du plaisir à cette écoute. Donc la musique triste peut nous produire du plaisir.
On peut peut-être ajouter, c'est vrai, sur la question de la différence d'appréciation des types musicaux en fonction des individus, le fait que dans les études de musicothérapie, le plus souvent, alors pas toujours, quand elles utilisent de la musique et pas simplement des voix chantées ou des voix qui produisent des sons divers, elles demandent, pour une certaine efficacité, elles demandent au préalable au sujet de choisir des types musicaux qui lui conviennent le plus. Et on a observé, c'est assez net, que quand c'était des types qui lui plaisait, alors effectivement les séances de musicothérapie étaient plus efficaces. Quand on avait par exemple des choses qui étaient un travail autour de la gestion de la douleur par exemple, donc qui peut se quantifier assez facilement, et que si c'était des types qui ne lui plaisaient pas ou qui étaient mis de manière complètement aléatoire, on était moins efficace. Donc il y a maintenant plusieurs, il y a même des logiciels qui font ça, et où il y a effectivement toujours ce préalable où on demande, c'est-à-dire ce qui prend en compte le fait que au fond tout le monde n'aime pas la même musique, ce qu'on sait bien et ce qu'on observe tous les jours.
Les goûts et les couleurs, c'est une chose, mais comment... C'est difficile aujourd'hui de percevoir comment la musique peut influencer la perception de la douleur.
Alors sur la perception de la douleur, ça c'est effectivement quelque chose sur lequel c'est assez bien montré. Il y a, y compris d'ailleurs au CHU de Nantes, un certain nombre de blocs opératoires qui fonctionnent avec de la musique. Et on a observé que, là pour le coup, on a des critères extrêmement, qu'on appelle des critères durs en science, c'est-à-dire des critères objectifs, où on voit la quantité d'antalgiques nécessaires, notamment en post-opératoire, pour supporter la douleur post-opératoire. Et on s'aperçoit que quand l'opération a été faite avec de la musique, et bien finalement, alors musique qui peut éventuellement plaire au sujet avant, parfois on peut demander, et bien éventuellement après, on a une consommation, enfin de manière significative, on a une consommation d'antalgiques qui peut être diminuée. Il faut que le chirurgien apprécie lui-même ce type de musique, sinon ça le déconcentre.
Hervé Platel ?
Oui, alors tout à fait, ça, ce sont des travaux maintenant avec une quantification absolument bien avérée, et dans certaines études donc, et dans certaines méta-analyses d'études, parce que maintenant on a plus d'une vingtaine de publications bien au-delà, très très bien faites, qui respectent les critères je dirais ce qui est attendu en médecine donc scientifique, on peut atteindre 40% de réduction des antidouleurs dans ce type de contexte.
Ah oui, 40%.
Ah oui, oui, même au-delà, mais c'est, je dirais, un seuil parfaitement atteignable.
Bon, maintenant, on arrête tout, c'est le moment de la pause musicale, et au labo, même la détente est scientifique. Tout de suite, on s'écoute Weightless de Marconi Union. Olivier Bonneau et Hervé Platel, vous connaissez certainement ce morceau, car il a été encensé comme le morceau le plus relaxant du monde. Il a même été créé pour ça. A priori, son rythme apaise la fréquence cardiaque. Les chercheurs dirigés par le docteur britannique David Lewis Hodgson évoquent aussi des effets sur la fréquence respiratoire et la pression sanguine. C'est parti. De retour au Labo des Savoirs, j'espère que vous ne vous êtes pas endormi derrière votre poste. Nous sommes toujours en compagnie d'Olivier Bonneau, professeur en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CHU de Nantes et à l'Université de Nantes, mais aussi responsable pédagogique du diplôme de musicothérapie de l'Université de Nantes, et de Hervé Platel, par téléphone, enseignant-chercheur en neuropsychologie et spécialiste de la musique à l'Université de Caen. Vous avez un peu écouté le son qu'on vient d'entendre. D'après vous, quel genre musical c'est ?
Alors ça, je dirais pas grand chose de nouveau sous le soleil depuis les années 60, avec le New Age.
Un peu New Age, ouais, c'est ça.
Donc oui, ça doit être plus agréable de l'entendre sur une bonne chaîne IFIC par téléphone, je pense.
J'imagine, nous c'est agréable. Vassili Moreau a analysé nos préférences musicales, les différents styles de musique et particulièrement le style cognitif.
Depuis la préhistoire, la musique fait partie de notre quotidien. Avec le temps, différents genres se sont différenciés et ont évolué. En fonction de nos humeurs, on va plutôt écouter des musiques adéquates qui vont nous soulager ou nous accompagner dans notre ressenti. Avec nos discothèques portatives, il nous arrive de zapper jusqu'à trouver la chanson qui est avec notre envie du moment. Nos émotions varient et la musique suit. Il y a un autre déterminant, les genres de musique. Nous écoutons tous différents styles de musique. Alors certains se contentent de grandes familles comme le pop, le rock, le jazz ou le classique, tandis que certains cherchent des sous-genres plus spécifiques comme le cloud rap, la future house ou l'émotive hardcore de la quatrième vague par exemple, des noms alambiqués qui étonnent les non-initiés. Mais pourquoi diable ma mère n'aime-t-elle pas le dépressive post-black metal ? On vient d'évoquer nos émotions variantes, et pour maman, un morceau évoquant une forêt froide et sombre et le vide de la vie, c'est pas trop sa tasse de thé. On pourrait aussi penser à son âge, mais nos goûts évoluent avec le temps. Non, à la place de son âge, je dirais plutôt son environnement socioculturel qui a son influence. Comme l'explique l'article « La stratification sociale des goûts musicaux » de Philippe Coulangeon, paru en 2003 dans la revue française de sociologie. Mais attention, c'est pas automatique. On peut très bien aimer de la musique traditionnelle mongole sans être né dans les steppes. Et un mongol peut très bien préférer la dubstep. Ces exemples étaient des influences affectives sur notre goût auditif. J'ai cherché un peu plus loin et figurez-vous qu'un autre déterminant fait de nous des adeptes du jazz cubain plutôt que du zouk, les styles cognitifs. Alors attention, on parle du style cognitif, pas de la capacité cognitive. Ça ne veut pas du tout dire que les fans de Jul sont plus stupides que les autres. Non, pas du tout. Le style cognitif est une notion permettant de comprendre les différences individuelles des processus d'apprentissage et d'adaptation au monde. En 2011, une expérience a été faite avec des personnes présentant des troubles envahissants du développement ou des troubles du spectre autistique. C'est le centre psychothérapique de l'Ain, de Bourg-en-Bresse, qui fut le théâtre d'une activité pour le moins particulière. C'est un jeune infirmier, Vivian Grezzini, qui a eu l'idée de faire intervenir des groupes de noise et de grindcore. Des artistes de ces genres de musique sont venus du monde entier pour participer. Alors pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, voici un petit échantillon. N'essayez pas de régler le son de votre appareil. C'était un petit extrait du groupe japonais CT Star Sept qui s'était rendu justement à Bourg-en-Bresse. Bon, c'est sûr que ça peut pas plaire à tout le monde et on comprend qu'on puisse se poser la question de la légitimité du dispositif. Mais plus important, quel effet est-ce que cela a eu sur les patients ? Alors selon Vivian Grazzini, deux effets recherchés ont été atteints. Le premier était le personnel soignant et les patients ont partagé ensemble un concert. D'autre part, l'objectif était aussi de faire découvrir aux patients des choses inédites et surtout leur faire oublier leur quotidien le temps d'un concert. En général, la musique est utilisée auprès de ses publics à la majorité du temps pour les apaiser, les détendre. Mais ici, l'idée était aussi d'utiliser la musique pour expier d'autres émotions. On pourrait croire que cette musique agressive aurait déstabilisé ces patients atteints de conditions psychologiques si particulières. Or, lors de ces représentations, ni d'agressivité, ni d'anxiété n'ont été observées. Au contraire, l'infirmier Vivian Grazzini, dans une interview pour Libération en juin 2014, disait ceci. La plupart des patients se sentent rassurés par cette masse sonore informe qui les submerge. Quelques-uns s'endorment, d'autres dansent, d'autres s'allongent sur le sol. En amont du concert, lorsque les artistes se branchent, un silence se fait naturellement, alors que d'ordinaire, le service est très bruyant. Et en aval, les patients sont apaisés. Ces sonorités ne leur sont pas désagréables. De nets progrès comportementaux et sociaux ont été observés en 3 ans. Alors, la musicothérapie, ce n'est que de la musique douce, et comment est-ce qu'on choisit un morceau pour avoir un objectif thérapeutique ?
Alors, la musicothérapie, c'est assez complexe finalement, puisque c'est avant tout une thérapie qui utilise la musique pour entrer en contact avec l'autre, de façon à, au fond, pouvoir l'aider, selon des objectifs qui sont évidemment différents, selon la pathologie et les problèmes que peut avoir la personne. Ce qui fait que, du coup, il existe pratiquement autant de techniques musicothérapiques que de musicothérapeutes, mais en gros, on pourrait classer les choses un petit peu en quelques catégories. Soit on utilise de la musique qui est déjà écrite et qu'on passe à la personne. L'idée, c'est pas simplement qu'elle écoute la musique, c'est qu'on échange avec elle. Donc on passe un morceau, on passe un autre, on peut peut-être jouer avec les morceaux pour utiliser en quelque sorte le langage du morceau musical. Ça, c'est une chose. Soit on va produire de la musique avec le sujet. Alors là encore, on peut la produire en chantant, comme dans l'exemple et l'interview que vous aviez passé tout à l'heure, ou alors on peut éventuellement avoir des instruments. C'est quand même en général ce qu'on utilise. Donc on a un kit d'instruments à disposition qu'on appelle instrumentarium, pour faire un peu joli et faire un peu musical. Et puis, on va l'utiliser et on va communiquer. On va faire un bruit, une musique, une sonorité, et on va le passer au sujet qui est avec nous, qui va lui-même faire quelque chose, et ainsi de suite, et on va échanger avec ça. On va utiliser, en fait, et c'est vrai que c'est un médium particulièrement efficace pour entrer en relation avec l'autre, on va utiliser cette capacité à produire de la musique pour échanger avec le sujet et essayer justement d'arriver à entrer en contact avec lui et avoir une activité thérapeutique. C'est ça qui est un peu différent avec l'écoute musicale qui est au fond d'une certaine manière relativement passif. La musicothérapie est un phénomène actif entre deux personnes, un thérapeute et quelqu'un qui a besoin de cette thérapie. C'est là, ce travail-là qu'on essaye nous de faire au CHU de Nantes mais aussi dans d'autres endroits et qui se fait d'ailleurs très communément en psychiatrie. C'est utilisé en psychiatrie dans énormément de services. Il est rare qu'il y ait des services qui n'aient pas à un moment donné ou à un autre utilisé de la musicothérapie selon toutes les formes que j'ai un peu pu évoquer et puis encore plus que ça.
Est-ce qu'on peut faire de l'automédication avec de la musicothérapie ? Il faudrait être formé.
Alors, l'automédication avec la musicothérapie, c'est au fond un peu compliqué. On peut faire de l'automédication avec de la musique, ça c'est sûr. C'est ce qu'on fait au fond, d'une certaine manière, un peu tout le temps. En écoutant de la musique, en disant, tiens, je suis pas en forme, je vais m'écouter une musique un peu joyeuse. Ou, tiens, j'ai envie de me détendre, comme tout à l'heure, je vais écouter une musique un peu planante, new wave. Ça, c'est une forme d'automédication, d'une certaine façon. Faire une automédication thérapeutique, c'est compliqué, parce que si vous n'avez pas de thérapeute en face de vous, ça devient complexe. Ou alors, on essaye de développer et il y a des gens qui travaillent dans ce domaine. De plus en plus maintenant, la psychiatrie n'échappe pas à la révolution digitale et numérique. Et donc, on peut bien imaginer qu'on puisse avoir des thérapeutes en intelligence artificielle dans votre poche à l'aide d'applications smartphone qui, à ce moment-là, vous diffuserez de la musique en fonction de votre état et en fonction de ce que vous répondriez, vous diffuserez un type de musique et s'adapterez. Cette adaptation, c'est ça qui est thérapeutique et c'est ça qui rend évidemment difficile d'être musicothérapeutique tout seul.
On le rappelle, Olivier Bonneau, vous travaillez notamment avec des personnes autistes. Comment vous utilisez la musique concrètement ?
Alors concrètement, c'est vrai que l'utilisation de la musicothérapie dans les troubles du spectre autistique est quelque chose de très 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 ancien. Il y a une littérature assez abondante sur le sujet. La dernière grosse revue de la littérature, Méta-analyse, comme disait Hervé tout à l'heure, et regroupe à peu près 25 études, ce qui est déjà pas si mal dans un domaine qui n'est pas une science très dure, on va dire. Alors les études sont un peu disparates, utilisent des techniques différentes, des durées différentes. Certaines sont anglo-saxonnes où c'est une ou deux séances de musicothérapie. En France, habituellement, on a l'habitude de faire une séance par semaine pendant plusieurs semaines, parfois une année, en tout cas une année scolaire. Donc, mais enfin, en général, on a le sentiment que c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Et il y a un grand institut qui fait des méta-analyses qui s'appelle l'Institut Cochrane, qui a fait très récemment, sous la direction de quelqu'un qui connaît très bien la musicothérapie, qui s'appelle Christian Gold, qui est un chercheur anglo-saxon, qui d'ailleurs dirige en ce moment la plus grosse étude de musicothérapie à travers le monde, regroupant plus de 1000 types de musicothérapeutes, qui montre, cette méta-analyse qu'il a faite, montre qu'il y a une tendance très positive dans l'efficacité de la musicothérapie. Simplement, c'est qu'une tendance sur le plan statistique et ça ne répond pas à ce qui est aujourd'hui demandé, à savoir ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, c'est-à-dire la médecine basée sur la preuve. C'est pour ça qu'à Nantes, on a mis en place, il y a déjà maintenant 2 ans, une étude qui devrait répondre à tout, qui doit répondre à tous ces critères, donc qui nécessitent d'avoir suffisamment de patients, de les suivre pendant suffisamment longtemps, de les randomiser, c'est-à-dire de les ranger dans chaque groupe de patients au hasard, des gens qui ont de la musicothérapie, d'autres qui n'en ont pas, de voir comment ils vont avant, si possible, comme on dit, à l'aveugle, c'est-à-dire de les évaluer sans savoir dans quel groupe sont les patients, et puis surtout, à l'aveugle est important à la fin, de les évaluer à la fin, c'est-à-dire au bout de 6 mois, en là aussi ne sachant pas dans quel groupe à quel groupe ils appartiennent. Alors on a fait cette étude qui a quand même impliqué tous les services de Loire-Atlantique de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, enfin en tout cas une majorité d'entre eux, ce qui était déjà une gageure en soi, parce que ce n'est pas des services qui font habituellement beaucoup de recherches, et qui a montré de manière assez surprenante, sur un critère qui est utilisé en général pour les études médicamenteuses, qu'on appelle, c'est un critère vraiment assez large, qui est un critère d'efficacité clinique, qui est une échelle qui s'appelle la CGI, on a montré en fait une réelle supériorité de la musicothérapie sur, et on avait choisi comme contrôle, sur l'écoute musicale seule. C'est-à-dire montrant en soi que la musique seule aide l'enfant autiste, mais la musique seule, dans le cadre de ce processus thérapeutique, aide un peu plus, et en tout cas significativement plus, l'enfant autiste. Alors ça, c'est un élément important. Cette étude doit être reproduite, et Christian Gold, qui fait ce travail un peu mondial, devrait avoir des résultats sur énormément de plus, mais c'est vrai que c'est un élément très très important, parce que évidemment, c'est pas tout à fait la même chose d'écouter ou de faire ce travail thérapeutique sur lequel nous, on insiste particulièrement. On avait, je le dis juste pour comme ça terminer, on avait quand même inclus 36 patients sur 30 séances sur une durée de 9 mois, ce qui fait quand même pas mal de sujets.
Étymologiquement, musique vient de la muse, et le poète Alfred de Vigny disait en 1829 « J'appelle ainsi l'art tout entier, tout ce qui est du domaine de l'imagination, à peu près comme les anciens nommaient musique, l'éducation entière. » Donc vous évoquiez à l'instant l'écoute de la musique, mais il y a un moment où le patient peut aussi être acteur. Est-ce que la créativité du patient dans la musicothérapie, c'est important?
Alors c'est très important, la créativité, évidemment c'est important dans le processus thérapeutique parce que au fond c'est sa créativité qui va permettre d'engager l'échange. S'il produit rien, c'est évidemment compliqué d'échanger avec lui, donc il peut y avoir un travail à un moment donné pour arriver à l'aider à être créatif. Et puis en général, la créativité est quelque chose de très important en psychiatrie. On a observé beaucoup de travaux sur créativité et psychiatrie. On sait qu'un certain nombre de gens qui avaient des pathologies psychiatriques parfois très graves étaient également des artistes mémorables, notamment beaucoup de peintres, mais également des musiciens, et puis toutes sortes d'artistes diverses. Et donc c'est vrai que cette créativité peut être très encouragée par l'utilisation de la musique, qui paradoxalement, et en tout cas dans les instruments qu'on utilise pour la musicothérapie, est quelque chose d'assez facile. C'est assez facile au fond de faire du bruit, c'est un peu moins facile de faire un bruit qui a une jolie sonorité, mais c'est assez facile de faire du bruit, et donc du coup c'est assez ludique aussi, il y a quelque chose de ludique, de sympa, ça donne une ambiance plutôt agréable pour des patients qui sont parfois un peu, on dirait, timides dans le sens commun, mais qui ont des difficultés dans la relation. Avoir un instrument, ou en tout cas des instruments à disposition qui sont faciles, ça a tendance à aider et à enjoliver et à peut-être favoriser une certaine forme de créativité, oui.
Et les conséquences de votre acte de musicothérapeute sur les enfants autistes, c'est de les rendre plus sociables, avec une meilleure locution, c'est ça?
Alors en effet, effectivement, quand on fait des travaux ou quand on travaille comme ça, de manière thérapeutique, il faut avoir un objectif. C'est toujours le cas. Donc là, on peut se fixer des objectifs qui peuvent être différents. La musicothérapie peut avoir son utilité, en tout cas pour nous, dans le travail qu'on fait au CHU de Nantes, mais aussi dans les centres hospitaliers qui entourent Nantes. C'est essentiellement autour des symptômes centraux de la condition de patient avec autisme. C'est les capacités relationnelles. Et on comprend bien que travailler avec la musique pour échanger grâce à la musique, ça a en tout cas comme objectif d'essayer de travailler quelque chose de l'ordre de la relation. Et puis nous, quand on l'a fait, on l'a dans l'étude en tout cas en particulier, on l'a fait sur des enfants qui avaient entre 3 et 5 et 7 ans. Donc c'était des petits-enfants, certains avaient des gros retards de langage, et c'est évidemment aussi pour travailler la question du langage. D'une certaine manière, le langage ne se développe pas sans une certaine capacité à être en relation avec l'autre. Si on a des difficultés de relation avec l'autre, on a un trouble du langage. Certains pensent même que dans les troubles du spectre autistique, c'est parce qu'on a des difficultés avec les autres qu'on a des troubles du langage. Certains pensent le contraire, attention, c'est pas tout à fait clair cette affaire. Mais en tout cas, c'est sûr que les deux sont probablement assez liés, et donc bien entendu, ça permet d'entraîner à la fois de meilleures capacités relationnelles et des meilleures capacités langagières, mais qui sont plus difficiles à évaluer sur le court terme.
La musicothérapie influe-t-elle uniquement sur le comportement, Hervé Platel ?
Sur le comportement, c'est majeur, hein, ça c'est évident. En fait, sur tout un tas de niveaux qu'on a déjà évoqués, et moi je voudrais, en miroir de ce que vient de dire Olivier Bonneau, parler nous de notre expérience du côté du vieillissement pathologique avec la maladie d'Alzheimer, parce qu'en fait, on va retrouver tout à fait les mêmes indications. On peut utiliser la musique à la fois pour diminuer les troubles comportementaux, la dépression, l'anxiété, donc simplement par l'écoute musicale. L'écoute musicale personnalisée, je pense que le point important de ce qui a été dit avant, c'est le fait de pouvoir personnaliser, qui est vraiment un médiateur, un thérapeute qui soit là pour cette personnalisation, parce que effectivement on peut écouter de la musique soi-même à la maison, mais on ne le fait pas dans une visée effectivement qu'on pourrait qualifier de thérapeutique, même si ça peut apporter un bien-être. Donc cette personnalisation, elle est très importante. Et puis chez les patients, on peut aussi utiliser la musique. Alors évidemment, on ne rend pas les gens compétents en musique comme ça du jour au lendemain, c'est pas si simple, mais il y a une chose que tout le monde peut faire assez facilement, c'est essayer de chanter par exemple. Et avec les patients Alzheimer, on a montré que le chant était source effectivement de beaucoup de bienfaits, et qu'on allait pouvoir travailler sur la mémoire et la stimulation de la mémoire grâce au fait que la mémoire musicale est quelque chose qui ne s'oublie pas ou s'oublie peu avec le vieillissement, et qu'on allait même pouvoir réactiver la capacité de chez ces patients très amnésique à pouvoir apprendre des informations nouvelles grâce à la musique en répétant en fin de compte des ateliers d'apprentissage de chansons nouvelles. Donc on va à la fois osciller entre le bien-être comportemental dans la relaxation notamment, et puis on va aussi être du côté de la stimulation cognitive, c'est-à-dire essayer d'améliorer un certain nombre de fonctionnements. Donc on joue sur tout un tas de tableaux tout à fait complémentaires, et c'est quand même ça la grosse force de la musique.
Priscilla Chevreau va nous en parler à l'instant. Elle est psychologue, musicothérapeute, et elle utilise la musique sous forme active et passive. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Pour atténuer, justement, la maladie d'Alzheimer. Elle était aussi présente aux journées de la musicothérapie le 19 mars dernier. On l'écoute.
La remédiation musicale, en fait, c'est utiliser la musique comme outil pour aller stimuler des fonctions cognitives telles que le langage, la mémoire, la concentration. Pour ça, on fait des petits exercices de rythme, on fait du chant. Il y a à disposition du matériel de musique comme du matériel de percussion, essentiellement des claves, des tambourins, etc. Et on fait plein de petits exercices comme ça pour aller des exercices de mémoire, des exercices de rythme, etc. Comme on peut faire avec de la remédiation cognitive standard, où on va proposer des ateliers mémoire, des jeux, des choses comme ça.
Dans votre étude, finalement, la musicothérapie, elle se fait plus en activité passive, en écoute, c'est ça ?
Alors les deux. Passive et active. Passive, oui, parce qu'il y a de l'écoute et puis de la verbalisation aussi sur ces écoutes, et puis active parce qu'il y a aussi l'utilisation d'instruments.
De manière très concrète, vous proposiez des musiques, vous dites familières, c'est-à-dire des musiques que tout le monde peut connaître, de la variété française, c'est ça ?
Oui, alors en fait, c'est une étude avait classé la familiarité des musiques sur une population française. Par contre, sans les paroles, c'était simplement la musique. Mais voilà, elles ont été classées comme familières par des chercheurs qui avaient déjà fait ce type de travail. C'est Herley qui avait fait ça. Et c'est familiarité sur une population française. Donc, je suis sûre que c'était des musiques qu'ils avaient déjà entendues plusieurs fois dans leur vie.
Et qu'est-ce que ça provoque chez les patients, la musique d'Edith Piaf, par exemple ?
Alors, ils savent qu'ils la connaissent, ils arrivent à la chanter. Quelquefois, ils ne retrouvent pas tellement qui est la chanteuse, quelle est la chanson, quelles sont les paroles, mais en tout cas, ils la chantonnent systématiquement. Ils savent qu'ils l'ont déjà entendue. La plupart disaient aussi qu'ils avaient déjà dansé dessus. Et tout de suite, forcément, ils font des associations avec des souvenirs de fêtes, de balles, de fêtes familiales, de plein de choses. Et ça active instantanément des souvenirs.
Dans la vie courante, ça leur permet de retrouver des souvenirs ou d'atténuer les effets d'Alzheimer ?
Oh oui, parce que tout de suite, quand on met de la musique, surtout les musiques d'Edith Piaf, il y en a beaucoup qui sont rythmées en plus, pour prendre cet exemple-là. Instantanément, déjà, les patients qui sont un peu apathiques, qui sont très inertes et qui ne bougent pas beaucoup, d'un seul coup, voilà, ils ouvrent les yeux, ils tapent des pieds, ils tapent des mains, ils sourient et instantanément, ça les sort de leur apathie. Et puis, ils ont envie de parler, de discuter, de raconter, de dire qu'ils ont dansé dessus, d'échanger avec les autres résidents, avec les personnes qui sont autour d'eux.
Là, vous parlez plus de la stimulation par les émotions, en fait, de la
oui.
musique.
Bah, en fait, c'est vraiment un tout parce qu'il y a les émotions, les souvenirs, la mémoire, l'initiation aussi, le fait de venir taper dans ses mains, de venir taper des pieds, etc. C'est aussi de l'initiation motrice, donc en fait c'est vraiment un tout. Ça a été démontré que la musique permet de favoriser la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la plasticité cérébrale, c'est la modification structurelle, fonctionnelle du cerveau. Grâce à la musique, en fait, ça agit vraiment sur cette plasticité. Parce que notre cerveau est plastique, il peut se modifier en fonction des interactions que l'on a avec l'environnement. Mais dans la pathologie d'Alzheimer, non, on n'a pas, il me semble pas qu'il y ait eu des études comme ça. On a fait vraiment des IRM et voir est-ce que vraiment il y a un impact sur le cerveau directement. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un impact sur le comportement, sur les signes cliniques, ça oui.
Je vous laisse confirmer, Hervé Platel, quels sont les bienfaits de la musicothérapie sur la maladie d'Alzheimer au niveau cérébral ?
On a entendu là, donc c'est clair, on a un éveil, une présence, on peut stimuler des patients qui peuvent être très apathiques par ailleurs. Donc ça, on a une efficacité par rapport à cet éveil cognitif, à cette stimulation qui est très importante. Alors nous, on a beaucoup insisté sur les capacités préservées donc grâce à la musique. Et donc pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit à la fin, on vient de terminer une étude de neuroimagerie où on a emmené des patients dans une IRM pour voir qu'est-ce qui se passait dans leur cerveau en fait lorsqu'ils entendaient ou voyaient des choses qu'on leur avait apprises de nouvelles alors même qu'ils ne se souvenaient pas des séances où ils avaient participé à la présentation de ces informations. Donc on a de plus en plus d'éléments de preuve pour comprendre les mécanismes qui permettent à la musique notamment d'être efficace dans ce contexte.
François-Xavier Vray, sur le site internet de l'Institut de musicothérapie de Nantes, donc il faut rappeler que c'est le directeur d'Institut de musicothérapie de Nantes, écrit « La musicothérapie en elle-même n'a jamais soigné personne ». Qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais non, parce que en fait, c'est pas la musique qui soigne comme ça. Enfin, la musique, elle soigne entre guillemets, mais je pense que ce qu'il veut dire, et notamment là, si je prends le contexte de la maladie d'Alzheimer, il faut que les gens comprennent, effectivement, on parle de neuroplasticité. Bon, évidemment, est-ce qu'on les guérit, ces patients ? Non, on les guérit pas de leur maladie, mais on permet d'avoir un bien-être et d'augmenter leur capacité à lutter contre la maladie qui est importante. Alors évidemment, la musique, je pense même pas qu'on puisse dire au jour d'aujourd'hui, la musique, ça peut se donner sous la forme d'un médicament, donc avec une posologie, vous écouterez ça 3 fois par jour et ça ferait... Non, on n'en est pas là. Je pense pas que ça soit l'objectif, en fin de compte, de la musicothérapie. L'objectif, c'est plutôt effectivement d'être dans l'interface entre les sciences médicales et les sciences humaines et d'amener quelque chose, effectivement, en termes de relations, en termes donc de troubles du comportement, des difficultés donc relationnelles, et bien d'amener quelque chose, effectivement, qui tend vers le bien-être et la santé, c'est un sentiment de bien-être, hein, ça c'est la définition de l'OMS.
Olivier Bonneau, je vous ai vu bondir.
Non, alors je connais très bien François-Xavier Vray, c'est le directeur de l'Institut qui chapeaute aussi une partie de ce diplôme universitaire de musicothérapie de Nantes. Donc je pense que en fait ce qu'il voulait peut-être dire exactement, ça n'a jamais guéri personne très probablement, ça soigne par contre les gens. En général quand même en psychiatrie, et particulièrement en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, mais marqué aussi en psychiatrie de l'adulte, on a quand même la propension de penser qu'on est humble et on se dit qu'on soigne les gens, on n'est pas toujours sûr qu'on peut les guérir. Il y a quand même beaucoup de progrès à faire, on ne sait pas très bien comment fonctionne le cerveau humain et encore moins le cerveau en développement, même si on a fait énormément de progrès ces 10-15 dernières années. Je crois qu'on n'en parle pas assez, mais on a fait des progrès colossaux, mais bon, on ne sait pas encore tout à fait tout et loin de là. La musicothérapie, moi j'aurais envie de dire, c'est un très bon traitement adjuvant. On le voit dans l'autisme, où on a quand même accumulé un grand nombre de preuves, qui pour l'instant ne sont pas encore suffisantes, mais je pense qu'on va arriver à les montrer comme suffisantes. On le voit, on l'a évoqué dans l'Alzheimer, on a aussi fini, même si je suis pédopsychiatre, je fais parfois des études chez le sujet âgé, on vient de finir une étude dans l'Alzheimer aussi, montrant que ça a des effets sur la mémoire, en tout cas sur ça diminue la vitesse de dégradation des capacités amnésiques des patients par des jeux de répétition avec avec des thérapeutes. Donc on voit que ça peut être un traitement adjuvant. Et aujourd'hui, à l'heure où on parle énormément de la notion de qualité de vie, qui est quelque chose de si important, je crois, pour les patients, que ce soit en psychiatrie, mais dans les autres disciplines médicales aussi, en neurologie, bien sûr, dans la douleur, mais ça peut être aussi dans toutes les maladies chroniques. Je crois que on aurait tort de se priver d'une technique qui n'est pas liée à une théorie particulière, qui a effectivement un soubassement ou des explications qui commencent à être assez sérieuses sur le plan des neurosciences et qui montrent tout un tas d'efficacité. On aurait tort de s'en priver parce que ça marche, au fond. Alors évidemment, ça ne va guérir personne tout seul, ça c'est pratiquement sûr, mais il y a peu de choses qui guérissent véritablement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est quand même que ça soigne les gens.
Et une dernière question pour vous, Hervé Platel, ce sera le mot de la fin. Pourquoi n'y a-t-il pas plus d'études neurologiques à ce sujet? Ou du moins, pourquoi n'y en a-t-il pas eu plus tôt?
Il y en a de plus en plus. Hein. Ça a été exponentiel depuis le début des années 2000. Et ben, je vais vous répondre à quelque chose qui est très décevant. C'est en fait, ce sont les moyens de faire ces études. Non, mais c'est clair. Écoutez, c'est pas très compliqué. Hein. Nous, pour arriver à faire ces études, notamment les études de neuroimagerie, c'est pas tant après faire les examens, ils sont coûteux les examens, mais en fait c'est toutes les personnes ressources, les cliniciens, donc les doctorants, les post-doctorants qui vont être nécessaires pour réaliser ces études qui sont importants. Et c'est clair, le salaire d'un étudiant en thèse pendant 3 ans, hein, c'est 90 000 euros pendant 3 ans. Voilà. Donc quand on demande des ressources en personnel, et c'est ce qui fait le plus défaut à la recherche en France aujourd'hui, eh bien on voit bien que c'est difficile. Donc le manque de moyens fait qu'il y a d'autres priorités en termes de recherche aussi. Il y a les médicaments, c'est très important. Donc ces aspects-là, ils ont un mode de financement qui est peut-être pas à la hauteur de ce qui devrait être.
Anything in the world, and God we trust, an architect, doctor, maybe an actress, but nothing comes easy, it takes much practice. Like, I met a woman who's becoming a star, she was very beautiful, leaving people in awe, singing songs, Lena Horne, but the younger version, hung with the wrong person, got a strong on that, sniffing up drugs, all in her nose, could have died so young, now looks ugly and old, no fun, cause now when she reaches for hugs, people hold their breath, cause she smells of corrosion and death. Watch the company you keep, and the crowds you bring, cause they came to do drugs, and you came to sing, so if you're gonna be the best, I'ma tell you how. Put your hand in the air and take the vow. I know I can,
I know I can
be what I wanna be,
be what I wanna be.
If I work hard at it,
I'll be where I wanna be.
Boys and girls, listen again. This is for grown-looking girls who's only 10. The ones who watch videos and do what they see, as cute as can be, up in the club with fake ID. Careful, before you meet a man with HIV. You can host the TV like Oprah Winfrey. Whatever you decide, be careful, some men be rapists, so act your age, don't pretend to be older than you are. Give yourself time to grow. You're thinking he can give you wealth, but so young boys, you can use a lot of help, you know. You're thinking life's all about smoking and ice. You don't wanna be my age and can't read and write. Begging different women for a place to sleep at night. Smart boys turn them in and do whatever they wish. If you believe you can achieve, then say it like this. I know I can,
I know I can
be what I wanna be,
be what I wanna be.
If I work hard at it,
if I work hard at it,
I'll be where I wanna be.
I'll be where I wanna
now,
be.
Go.
Before
we came to this country, we were kings and queens, never porch monkeys. There was empires in Africa called Kush, Timbuktu, where every race came to get books to learn from black teachers who taught Greeks and Romans, Asian Arabs, and gave them gold. When gold was converted to money, it all changed. Money then became empowerment for Europeans. The Persian military invaded, they heard about the gold, the teachings, and everything sacred. Africa was almost robbed naked, slavery was money, so they began making slave ships. Egypt was the place that Alexander the Great went. He
was in shock that the mountains were black faces. Shot up their nose to impose what basically still goes on today, you see. If the truth is told, the youth can grow. They'll learn to survive until they gain control. Nobody says you have to be gangsters. Read more, learn more, change the globe. Ghetto children, do your thing. Hold your head up, little man, you're a king. Young princess, when you get your wedding ring, your man is saying, she's my queen.
I know I can.
Be what I wanna be.
If I work hard at it,
I'll be where I wanna be.
C'est le labo des savoirs.
On l'aura compris, la musicothérapie est bien différente de la musique. Elle requiert l'action d'un musicothérapeute qui sera là pour faire participer le patient, que l'écoute soit active ou passive. De plus en plus de musicothérapeutes sont présents dans les hôpitaux et notamment dans les blocs opératoires pour appréhender la douleur. Des recherches sont en cours pour prouver ces études et pour prouver qu'elles sont sérieuses et que la recherche n'est pas juste en sciences humaines, mais du chemin reste à parcourir pour faire connaître cette pratique. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase que vous avez dite, Olivier Bonneau, que ça ne guérit pas mais ça soigne. On conclura là-dessus. C'est la fin de cette émission. Merci à nos deux invités, Hervé Platel et Olivier Bonneau. Merci aussi à Vassily Moreau pour sa chronique et à Pauline Verbaenen à la réalisation. Vous pourrez réécouter cette heure de musicothérapie sur notre site internet, labodessavoirs.fr. À la semaine prochaine, au Labo des Savoirs.